monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du lundi 30 juillet 2018 sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Les Zimbabwéens aux urnes pour choisir leur président 8 mois après la chute de Robert Mugabe. Les Maliens dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle d'hier. Les observateurs se prononcent ce lundi sur le déroulement du scrutin. Sommet conjoint CDAO-CEAC sur le terrorisme qui se tient en ce moment à Lomé. En partie magazine, la colère des usagers d'Internet contre l'opérateur Orange au Sénégal.
Chaque fois ils nous volent, chaque fois ils font des milliards de bénéfices. Alors qu'au Sénégal, les gens n'ont pas quoi manger.
Ici aux États-Unis, 7 personnes ont trouvé la mort dans des incendies en Californie. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Clôture des bureaux de vote au Zimbabwe ce soir après la première présidentielle post-Mugabe qui s'est déroulée sans incident avec une participation élevée. Le point avec Nicolas Pinot. Voilà, donc en attendant d'avoir les explications de Nicolas Pinon, je vous rappelle que les bureaux de vote ont clôturé aujourd'hui au Zimbabwe, ce soir, après la première élection présidentielle post-Mugabe. Le point avec Nicolas Pinon.
Oui, les Zimbabwéens ont voté en masse pour cette présidentielle organisée en même temps que les législatives et les municipales. Tout s'est déroulé dans le calme avec de longues files d'attente dès l'aube devant de nombreux bureaux de vote à Harare. Pour ces scrutins historiques, la participation est élevée, a annoncé à la mi-journée la présidente de la commission électorale, Priscilla Chikumba. 23 candidats sur la liste de départ, dont l'actuel président Emmerson Mnangagwa pour la ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Le président Mnangagwa, qui a voté dans sa ville natale de Kwekwe, s'est félicité que la campagne ait été pacifique, tout comme le vote. Son principal adversaire est l'opposant Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. Robert Mugabe avait indirectement à voter pour lui pour battre son ancien parti. Pendant la campagne, l'opposition avait dénoncé les fraudes massives possibles. L'ONU s'était aussi inquiétée des intimidations d'électeurs avant le scrutin, mais elle a aussi salué l'élargissement de l'espace démocratique au Zimbabwe. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour devrait être organisé d'ici le 8 septembre.
Par ailleurs, l'ex-première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, ne bénéficiait pas de l'immunité diplomatique lors de l'agression en 2017 à Johannesburg d'une jeune femme. C'est ce qu'a indiqué ce lundi un tribunal sud-africain. Le mannequin sud-africain Gabriella Angels affirme avoir été frappé avec un câble électrique par Grace Mugabe le 13 août dans un hôtel huppé de Johannesburg. Grace Mugabe s'était alors vu reconnaître l'immunité diplomatique par le ministère sud-africain des Affaires étrangères au nom de l'importance des relations entre les deux pays. Au Mali, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit ce lundi, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Dans une déclaration à VOA Afrique cet après-midi, le président du pool d'observation du Mali affirme que les statistiques dont l'OPOSIM dispose indiquent que le pays va vers un second tour. De Bamako, le compte-rendu de notre envoyé spécial Jacques Aristide.
Pour les observateurs du POSIM, l'affluence n'était pas au rendez-vous hier dans bon nombre de centres et de bureaux de vote. Dans un entretien à VOA Afrique, le président de ce pool d'observation évoque un taux de participation de 37%. Ibrahima Sango affirme disposer des chiffres pouvant donner une idée des tendances, mais n'en fera pas part maintenant en raison de la loi électorale. Il a toutefois confié à VOA Afrique que tout indique qu'un second tour aura bel et bien lieu. Il est prévu pour le 12 août. Concernant le vote d'hier, les observateurs déplorent les différents incidents qui se sont produits, de même que ce qu'ils appellent des dysfonctionnements et insuffisances. 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta affrontait 23 autres candidats, dont Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition de Bamako au Mali. Jacques Aristide pour VOA Afrique.
Les électeurs comoriens, eux, ont voté ce lundi également lors d'un référendum sur une réforme constitutionnelle qui permettrait au président Azali Assoumani de briguer 2 autres mandats consécutifs. Les opérations de vote ont débuté avec près de 2 heures de retard à Moroni en l'absence de matériel électoral à l'ouverture théorique des bureaux de vote à 7 heures. Élu en 2016, Azali Assoumani a créé la surprise il y a 3 mois dans le petit archipel de l'océan Indien en annonçant une vaste réorganisation des pouvoirs. L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, a officiellement demandé l'autorisation de rentrer en République démocratique du Congo, où il compte déposer sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Monsieur Katumbi a demandé l'autorisation d'atterrir en jet privé vendredi à l'aéroport de Lubumbashi en provenance de Johannesburg. Comme tous les candidats à l'élection présidentielle, l'ex-gouverneur du Katanga doit déposer son dossier avant la date butoir du 8 août. Ex-proche du président Kabila, passé à l'opposition en 2015, il a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière. Un sommet conjoint de la CEDEAO et de la CEAC a eu lieu ce lundi à Lomé. C'est la première fois que les chefs d'État et de gouvernement des deux sous-régions tiennent une rencontre de ce genre. Au centre des débats, la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme ainsi que l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le point de la journée avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Les 26 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre conjuguent leurs forces pour venir à bout du terrorisme et instaurer une paix durable dans les deux sous-régions. En se donnant rendez-vous à Lomé pour la première fois, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, posent un acte en faveur de la paix. Ce sommet conjoint symbolise l'engagement des deux communautés à répondre aux défis sécuritaires de la coopération interrégionale. Pour le président en exercice de la CEAC, le Gabonais Ali Bongo Ondimba, les menaces sécuritaires transversales commandent les deux sous-régions d'agir de manière concertée et collective. L'Afrique de l'Ouest et du Centre font face à des menaces sécuritaires transfrontalières, y compris le terrorisme, l'extrémisme, les conflits liés à la transhumance, l'insécurité maritime et la piraterie. Il est donc impérieux que nous trouvions ensemble la meilleure approche pour nous attaquer à ces menaces et garantir la paix et la sécurité de nos populations, a indiqué pour sa part Fornia Singbe, le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. En ce moment même, les travaux à huis clos se poursuivent et seront sanctionnés par une déclaration, dite la déclaration de Lomé. Kay Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
L'Érythrée et la Somalie ont signé un accord portant sur l'établissement de relations diplomatiques et l'envoi d'ambassadeurs dans leurs capitales respectives. Le document a été signé par le président érythréen Isaias Afwerki et son homologue somalien Mohamed Abdullahi Mohamed en visite à Asmara. Le Conseil de sécurité de l'ONU retarde son plan visant à réduire les effectifs d'une mission de maintien de la paix en Somalie, estimant que les forces de sécurité somaliennes n'étaient pas suffisamment préparées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont désigné le président de Nicaragua, Daniel Ortega, et sa femme Rosario Murillo, qui occupe les fonctions de vice-présidente, responsable des violences dans ce pays d'Amérique centrale. Les manifestations contre le président Daniel Ortega, qui déchire le Nicaragua depuis 3 mois, ont déjà fait plus de 300 morts et 2000 blessés. Washington a déjà imposé des sanctions financières ainsi que des restrictions de visa contre plusieurs hauts responsables du Nicaragua. Quelques 12 000 pompiers poursuivent ce lundi en Californie la lutte contre des incendies qui ont fait au moins 7 morts dans cet état de l'Ouest américain. Le brasier a déjà dévoré des milliers d'hectares. Le point avec Raissa Girondin.
Le nord de la Californie s'embrase. 17 feux de grande envergure au total. Des flammes incontrôlables et une fumée toxique rendant les opérations de secours presque impossibles. 3 pompiers comptent déjà parmi les victimes du brasier. Des renforts envoyés par 13 États sont arrivés sur place. 3 personnes, une femme de 70 ans et ses 2 arrière-petits-enfants âgés de 4 et 5 ans, ont péri lorsque leur mobil-home a été pris par le feu. Dimanche, les restes d'une personne qui avait ignoré les ordres d'évacuation ont été retrouvés dans une résidence incendiée selon les autorités. Dimanche soir, l'incendie de Carr n'était circonscrit qu'à 17% et s'étendait sur plus de 38 600 hectares, selon des données officielles. Au dernier pointage, 38 000 personnes ont été évacuées dans le comté de Shasta. Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, y a déclaré l'état d'urgence.
Et en Inde, la mousson a provoqué une inondation dans un hôpital de l'état du Bihar, dans le nord-est, où des poissons se sont retrouvés à nager dans les couloirs. Une partie du rez-de-chaussée a été inondée après l'engorgement d'un tuyau en raison de fortes pluies. Depuis le mois de mai, 545 personnes sont mortes à cause des pluies qui ont affecté plus d'un million de personnes. Et puis l'armée israélienne a indiqué avoir arrêté ce lundi en Cisjordanie 4 Palestiniens de la chaîne de télévision Al-Quds, proche du mouvement islamiste Hamas. Le ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman avait ordonné début juillet que cette chaîne soit inscrite sur la liste israélienne des organisations terroristes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on retrouve Nicolas Pinot pour nous présenter la Minute Éco.
Le Fonds monétaire international maintient à 1,5% la prévision de croissance économique de l'Afrique du Sud pour 2018. Le FMI prévient cependant que l'économie sud-africaine doit faire face à la hausse rapide de la dette publique et le renflouement des entreprises publiques. La grève d'une partie des pilotes de la compagnie Royal Air Maroc continue ce lundi, provoquant l'annulation d'une dizaine de vols. Une partie des pilotes a entamé une grève le 20 juillet dernier pour protester contre leurs conditions de travail. Ils exigent une revalorisation salariale. La RAM perdrait ainsi 20 millions de dirhams par jour. Autre compagnie aérienne dans l'actualité, Air Sénégal. Après 2 semaines de suspension, l'un des deux ATR a repris vendredi du service vers Ziguinchor en Casamance. Cette immobilisation forcée des deux appareils de la jeune compagnie avait suscité de vives inquiétudes dans un pays déjà échaudé par les expériences avortées d'Air Sénégal International et de Sénégal Airlines. La République du Congo réapparaît dans l'agenda du conseil d'administration du FMI. C'est finalement vendredi 3 août que sera examinée la situation du pays et éventuellement le vote d'un soutien financier. Ce soutien est très attendu au Congo dont la dette s'élève à 9,5 milliards de dollars. Alors que le pays peine à mobiliser des recettes, la dernière mission du FMI à Brazzaville avait conditionné son soutien à des réformes audacieuses et immédiates.
Présent la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On connaît la date des élections à la Fédération béninoise de football.
Rendez-vous le 25 août prochain pour un combat fratricide entre Bruno Didavi, tête de liste du programme Nouvel Élan, et Martirin de Chacus, patron de la liste Football Nouveau Départ. Pour une deuxième fois après l'échec de 2013 face à Augustin Awanvuebla, Bruno Didavi voudrait toujours prendre son destin en main et s'assumer. Pour ces élections, il bénéficie du soutien de son ex-challenger qu'il a battu en 2013.
Ben Zarti devrait 50 000 dollars au WAC.
Et oui, en poste au Wydad à Casablanca, Faouzi Ben Zarti a décidé de s'en aller pour prendre en main le poste de sélectionneur de la Tunisie. Dans des propos rapportés par la presse locale, le président du WAC, Saïd Nasri, a expliqué que le technicien devra verser une pénalité de 50 000 dollars, soit 2 mois de salaire, en contrepartie au club marocain. Cette disposition est contenue dans son contrat.
Riyad Mahrez de retour à l'entraînement dans la semaine.
Bonne nouvelle, le milieu de terrain algérien de Manchester City, touché hier à une cheville, va reprendre l'entraînement cette semaine et pourrait être disponible pour le Community Shield face à Chelsea dimanche prochain, d'après l'annonce faite par son nouveau club. L'international algérien de 27 ans a passé des examens qui n'ont révélé aucune blessure sérieuse, selon Manchester City. Mahrez a subi une faute du jeune joueur du Bayern Munich, Chris Richard, à l'occasion d'un match amical à Miami, qu'il avait laissé longtemps au sol avec une cheville gauche douloureuse.
Lomar veut gagner la Ligue des Champions avec l'Atlético.
Le milieu de terrain champion du monde avec la France a mis la barre de ses ambitions haut avec son nouveau club, l'Atlético Madrid, qu'il a présenté aujourd'hui. « Je vais donner tout ce qui m'est possible pour aller le plus loin et gagner cette Ligue des Champions, dont la finale se tient le 1er juin 2019 au Wanda Metropolitano, l'antre des Colchoneros », a déclaré l'ancien monégaste. Formé à Caen, Lemar, 22 ans, a passé 3 ans sur le rocher entre 2015 et 2018, avant de rejoindre cet été l'Espagne contre 72 millions d'euros, où il retrouve 2 coéquipiers en bleu, Antoine Griezmann et Lucas Hernandez.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. L'Érythrée et la Somalie ont signé un accord portant sur l'établissement de relations diplomatiques après plus d'une décennie de tensions. Irénée Hermann-Lungbo a joint Roland Marshall du Centre des recherches internationales et spécialiste des questions de la Corne de l'Afrique. Et selon lui, c'est une belle occasion pour ces pays de construire un nouvel ordre régional avec en toile de fond de grands défis à relever. On l'écoute.
Et une chose, ça va être pour ces États de retrouver leur marque. Une autre, ça va être de reconstruire un ordre régional qui soit réaliste et en même temps qui fasse un peu place aux égaux des uns et des autres.
Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle étape des bouleversements positifs que connaît la Corne de l'Afrique quand on sait que l'histoire récente de ces trois nations est entremêlée ?
Oui, l'histoire de ces trois nations est entremêlée. La Somalie a servi quand même dans des années de refuge aux dirigeants érythréens et tigréens, donc qui s'opposaient alors au régime à Addis Abeba, hein, dans la deuxième moitié des années 70 et dans les années 80. Après, c'est devenu plutôt l'inverse dans les années 90 à cause de la guerre civile en Somalie. Et puis ensuite, dans la division de la guerre civile entre ceux qui étaient soutenus par l'Éthiopie et ceux que mécaniquement l'Érythrée a soutenus. Donc cette période semble achevée, je dis bien semble. Si vous voulez, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que oui, d'un certain côté, cette période s'achève et on voit mal, elle ne pourra pas se prolonger sur les mêmes bases. Mais d'un autre côté, le nouvel ordre régional à construire, il reste encore à construire. Et donc il y a beaucoup de questions, d'interrogations sur la capacité des uns ou des autres à faire des compromis.
À vous entendre, c'est une nouvelle collaboration qui sera basée sur la prudence.
Il ne faut pas se cacher que le chemin va être difficile et le chemin va être long, sauf à vouloir faire de grandes déclarations qui, si vous voulez, auront beaucoup de problèmes à se matérialiser parce qu'il y a des problèmes à régler. Et en même temps, si ces problèmes ne sont pas réglés, on aura assez rapidement de nouveau des amertumes et puis ensuite vraiment des acrimonies et puis peut-être des oppositions. Et
à quoi peut-on s'attendre alors dans ces conditions aujourd'hui concrètement ?
Il y a plusieurs tests qui méritent d'être attentifs. Le premier, c'est ce qui va se passer dans les élections éthiopiennes dans 2 ans. Si le Premier ministre est capable de mener la coalition pouvoir à une victoire, mais qui ne serait pas une victoire totale, avec une voix laissée à l'opposition, bon, ça sera un énorme pas en avant. Et ensuite, dans la question régionale, ça va être assez rapidement, comment est-ce que l'Érythrée et l'Éthiopie arrivent à trouver des politiques économiques convergentes qui permettent à l'Érythrée de sortir d'une situation économique qui est quand même très grave.
C'était Roland Marshall, joint en France.
Raïssa Girondin en votre compagnie. Jour de vote au Zimbabwe, où les électeurs ont voté pour la présidentielle. Emmerson Mnangagwa, l'actuel président, va-t-il l'emporter, malgré l'appel à voter contre lui de Robert Mugabe? Qu'en pensez-vous de l'avenir de la démocratie au Zimbabwe? Réagissez en direct à 18h en temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons.
Au Sénégal, Orange, le principal opérateur de téléphonie et fournisseur d'accès Internet, subit le courroux de ses clients suite à la suppression du cumul de passes Internet. Ce qui au départ était une simple vague de contestation s'est transformé en quelques jours en un vaste mouvement de boycott. Les clients qui payaient 1500 francs CFA pour cumuler le passe Internet de 3 gigas à un autre d'une validité d'une semaine devront maintenant débourser jusqu'à 7000 francs CFA par semaine, soit 1000 francs par jour pour avoir accès à Internet dans les mêmes conditions. De Dakar, le reportage de Seydina Abagay pour VOA Afrique.
C'est une véritable vague de contestation et de critiques que subit l'opérateur de téléphonie Orange, surtout auprès des jeunes Sénégalais qui se sentent lésés par la nouvelle formule de connexion Internet. Binta est une jeune étudiante. Elle trouve le boycott légitime.
Tous les jeunes n'ont pas les mêmes revenus. 1500 francs pour avoir de la connexion pour une semaine, c'était vraiment très bénéfique pour eux, pour être en contact avec le monde extérieur et tout. Donc si aujourd'hui on enlève cette possibilité d'avoir de la connexion pour une semaine, disons que ça les coupe carrément du monde extérieur. Donc je pense qu'on devrait, même si ils se sont rendus compte à la fin que c'était juste une faille, que c'était pas normal, ils devraient quand même essayer de proposer un service pareil qui permettra aux jeunes d'avoir assez de connexion Internet pour une semaine.
Au-delà de cette nouvelle formule de connexion, c'est le système d'exploitation d'Orange qui est remis en cause. Abdou Thiam, technicien informatique, estime que la société de télécommunications abuse de ses clients aux revenus modestes.
On est colonisé par Orange. Je ne sais pas qui est derrière. On ne peut pas expliquer totalement ce qui se passe ici avec Orange. Chaque fois, ils nous volent. Chaque fois, ils font des milliards de bénéfices. Alors qu'au Sénégal, les gens n'ont pas quoi manger. Tu achètes un crédit de 1000 francs, tu fais un pass Internet, ça prend jusqu'à 24 heures. Et c'est anormal parce que c'est ton argent, tu l'as acheté. Ça doit être illimité. On ne doit pas te forcer pour utiliser ton crédit ou ne l'a pas utilisé.
Rosalie est une jeune juriste. Elle estime que pour faire plier Orange, il faudrait d'abord briser sa mainmise sur les réseaux télécoms.
Je pense que ça n'aura pas un aussi grand impact, sans pour autant vouloir être négatif, ça n'aura pas un aussi grand impact que voulu en tout cas. Orange a un monopole incroyable par rapport aux autres soi-disant concurrents comme Tigo et Expresso. Et Orange a une base clientèle tellement énorme que quelques Sénégalais qui décident de ne plus acheter certains passes parce qu'ils coûtent cher ou parce qu'ils ont une durée limitée ne peuvent pas forcément atteindre leur objectif ou en tout cas impacter d'une manière conséquente Orange et son business.
Au Sénégal, un énième combat est mené contre les abus de la société leader en téléphonie et accès Internet. Cette fois, le mouvement semble avoir une plus grande portée car des milliers de jeunes ont manifesté leur courroux suite à la suppression du cumul des passes Internet qui leur permettait d'avoir un accès à Internet à moindre frais. Malgré cette vague de contestation, Orange n'a pas encore répondu aux revendications de ses clients, se contentant juste d'un tweet pour prendre acte des doléances. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, débat houleux au sein de la classe politique sur un nouveau code électoral à l'initiative des députés proches du pouvoir. Leur intention, c'est le toilettage du texte qui est en vigueur depuis la conférence nationale de février 90. Mais dit-on, la transparence des élections à venir pourrait bien en dépendre. De Cotonou, les précisions de notre correspondante Ginette Fleur-Adondé.
Avec 397 articles, le nouveau code électoral est pourvu de grandes réformes. L'une d'elles, d'ailleurs la plus contestée, est relative aux conditions d'éligibilité pour l'élection des députés. En plus des conditions connues depuis 1990, le nouveau texte exige un quitus fiscal devant accompagner la déclaration de candidature. Certains y voient une volonté manifeste du gouvernement à écarter des élections législatives des gens capables de contrôler l'action gouvernementale. La plateforme des organisations de la société civile applaudit cette exigence, ainsi que le critère de résidence d'un an au Bénin avant les élections. Mais elle appelle à étendre ces critères jusqu'aux élections présidentielles.
La plateforme est en accord avec l'exigence d'une citoyenneté exemplaire et promeut toutes les dispositions qui exigent que tout citoyen soit en règle avec le fisc dans notre pays. Elle appelle cependant à faire la part des choses entre la personne physique, candidat, et la personne morale.
Mais pour le juriste Nouroudine Saka Salé, le critère relatif à la résidence au Bénin pendant un an avant les élections est un obstacle sur le chemin des Béninois de la diaspora qui désirent revenir chez eux aux fins de participer à l'animation de la vie politique.
Moi, je serais tenté de dire qu'il ne faudrait pas corser les conditions d'accès à la candidature. Je comprendrais plutôt qu'on dise que le député élu a l'obligation de résider sur le territoire une fois l'élection acquise. Mais parler d'une résidence antérieure d'une année, ça peut apparaître en fait comme un critère d'exclusion d'une certaine catégorie de personnes.
L'autre aspect de ce nouveau code qui fait bomber le torse de l'opposition est lié au couplage des élections. L'intention, selon les députés, serait de faire des économies et de finir avec le fait que le Bénin soit tout le temps en train d'organiser des élections au lieu de consacrer le temps et les ressources à la construction du pays. Mais pour le nationaliste Irénée Agossa, il s'agit d'une illusion créée en vue d'échapper au contrôle de l'action gouvernementale par le peuple.
Pourquoi le contrôle de ce peuple gêne? Ça gêne parce que simplement, on veut aujourd'hui qu'après 90 jours, que le président soit élu, qu'il ait sa majorité et qu'il puisse faire tout ce qu'il veut durant 5 ans. C'est pas possible. Ces pauvres disent que nous n'avons pas besoin de ce couplage. Nous pensons que, de notre côté, ce qui est urgent, c'est plutôt Si on doit coupler, c'est les législatives et les communales. C'est ça ce qui est important.
Déjà, plusieurs séminaires et ateliers pour expliquer le bien fondé de ce toilettage qui ne reçoit pas l'assentiment de toute la classe politique. Maître Adrien Rungedji, président de l'Assemblée nationale, précise ici qu'il ne s'agit pas d'une intention malsaine, mais d'un souci de rendre plus fort cet arsenal sur lequel se reposent les élections au Bénin.
Certes, nos élections n'ont pas fait l'objet de contestations violentes, mais l'absence de contestations violentes n'est pas une preuve de ce que le système est entièrement satisfaisant. Nous nous devons donc de le reprendre, de le corriger et de faire en sorte qu'il devienne stable, pérenne et fiable.
De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Une conférence sur l'afrofuturisme s'est tenue récemment à Lomé. Il s'agissait de réfléchir sur l'avenir de l'Afrique dans divers domaines, notamment la question architecturale de l'Afrique. Quel avenir pour les villes africaines? La réponse dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kailosson.
L'Afrique calque son développement urbain sur des modèles occidentaux. Il est très rare de voir dans de grandes agglomérations africaines des bâtiments qui sont inspirés de l'architecture endogène du continent. Cet état de choses est dénoncé par l'architecte urbaniste Roland Akpedjekonu, qui estime que l'Afrique doit redéfinir sa propre identité architecturale dans ce 21e siècle, tout en ayant son patrimoine culturel comme axe central.
Dans les pratiques d'aménagement du territoire, nous devons appliquer les principes qui nous viennent de nos patrimoines, de notre identité. Donc la ville africaine du futur doit ressembler foncièrement à l'Afrique, c'est-à-dire puiser des matériaux qui servent à construire dans nos villages, qui servent à construire nos cases. C'est aussi utiliser les formes qui sont utilisées dans l'aménagement de notre cadre de vie par nos aïeux. C'est prendre en compte l'importance que nous avons toujours donnée à l'environnement, construire en matériaux locaux. On économise beaucoup. En termes de santé, on est en meilleure forme lorsqu'on vit, par exemple, dans une maison construite en terre. Parce que le ciment, il dégage du CO2. Qui n'est pas bénéfique aux poumons.
Le ministre togolais de la Culture regrette que la colonisation ait façonné la physionomie de l'Afrique. Il est temps d'avoir recours aux connaissances endogènes pour donner un nouveau visage au continent noir, pense Guy Madier Lorenzo.
L'Afrique n'a pas débuté au moment des indépendances. Nous avions des structures sociales, nous avions des empires, nous avions des cultures qui nous ont permis de pouvoir passer à travers les siècles. Si ce n'avait pas été la colonisation, je suis intimement persuadé que l'Afrique aurait un autre visage au jour d'aujourd'hui. Alors que nous prenions conscience que c'est à travers nos valeurs, nos traditions, nos cultures que nous pouvons puiser l'essentiel pour bâtir notre avenir.
L'idée selon laquelle vivre dans une maison construite en terre est synonyme de pauvreté doit être révolue. Kossi Assou, président de l'association TRECA.
Il est question de revenir à nos fondamentaux, à nos connaissances endogènes, de les reparcourir parce que nous les regardons avec un regard méprisant. Il faut enlever ce mépris, revisiter nos connaissances endogènes pour les mettre au goût du jour, afin que ces connaissances nous aident à construire l'avenir, un avenir serein et digne.
Il faut reconnaître que dans la capitale togolaise, quelques initiatives sont prises ici et là pour construire des bâtiments en terre rouge avec des toits en paille améliorée et des décorations d'intérieur en bambou. Kailosson Lomé pour VOA Afrique.
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Joselle Morissin pour la mise en onde, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.